les biologistes et les psychologues des centres. Alors, première chose que je voudrais dire à propos de cette représentation des origines, j'ai appelé ça l'embryon vient en pensant. Donc, je m'appuie là-dessus aux travaux notamment de Stratern, Sarah Franklin, mais également à propos du fœtus, donc ce qui est différent, mais celui de l'ouvrage de Luc Boltanski, La condition fœtale. Et donc, on voit bien, mais ce qu'on doit à Stratern et Sarah Franklin, c'est de montrer que l'embryon, grâce aux techniques de visualisation, devient accessible au regard. Ce qu'on peut également dire, c'est que c'est le parcours d'AMP qui va conduire les personnes à devoir se représenter cet embryon. Et nombreux, en fait, sont ceux qui me précisent qu'avant de faire une fécondation in vitro, ils ne s'étaient jamais posé la question de savoir ce que c'était qu'un embryon. Et par exemple, je cite le cas d'une femme que j'appelle Madeleine, qui me explique qu'à mesure qu'elle avance dans le parcours d'AMP et que l'embryon est dit et parfois vu, cette femme, elle est pourtant technicienne de laboratoire et elle me dit « un embryon, pour moi, maintenant, c'est impossible d'être humain. Avant d'avoir des difficultés pour avoir des enfants, avant les inséminations, avant la FIV, je ne me posais même pas la question de savoir ce que c'est qu'un embryon, même si je suis une scientifique. » Parmi les couples receveurs, donc vous avez bien compris qu'il y a des couples qui reçoivent des embryons et ceux qui en donnent, et donc parmi ceux qui reçoivent ces embryons, bien souvent, ils considèrent que tant qu'il n'y a pas de naissance, l'embryon est un matériel reproductif, pas un enfant. On voit bien ici comment, effectivement, il y a une censure à se représenter cet embryon comme un enfant potentiel, dans la mesure où voilà, ce dont il s'agit, c'est précisément d'en avoir un. Par exemple, cette femme me dit « un embryon, c'est un embryon, point. Je considère cet embryon d'un point de vue biologique, je ne considère pas cela comme un enfant abouti. Pour moi, c'est un amas de cellules. » À l'inverse, et c'est ça qui me semble intéressant, c'est que parmi les couples donneurs rencontrés, ils sont nombreux à se représenter l'embryon comme un enfant potentiel. Et ça confirme d'ailleurs ce qu'ont trouvé une équipe de chercheurs, de médecins de tenons, sous la houlette de Jacqueline Mandelbaum, qui ont montré que les gens qui donnaient leurs embryons à d'autres couples se représentaient cet embryon comme un enfant potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils se représentent cet embryon comme un enfant potentiel, ces donneurs rejoignent en cela l'avis du CCNE, du Comité Consultatif National d'Éthique, qui considère cet embryon, c'est une disposition de 1984, comme une personne humaine potentielle. Donc une femme m'explique, un embryon, oui, ce sont des cellules, mais c'est un peu plus, c'est une petite vie. Donc, ils se le représentent comme un enfant potentiel et en même temps, me disent-ils, c'est un amas de cellules, des cellules qui peuvent donner naissance à un enfant. Donc, il y a toujours quand même un minimum de connaissances biologiques et une non-assimilation de cet embryon à un enfant. Je dirais que ces embryons, dit une femme, c'est un futur bonheur, mais ce ne sont pas des enfants. Autre point intéressant, me semble-t-il, c'est que ce geste du don, donner ses embryons, n'est pas quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez fait votre fécondation in vitro, une fois que vous avez votre enfant, vous recevez ce courrier. Et donc, généralement, quand vous recevez ce courrier qui vous demande qu'est-ce que vous voulez faire de vos embryons surnuméraires, eh bien, vous venez d'avoir un enfant. Donc, il y a tout un travail qui est de distance, qui est à faire. Et, par exemple, cet homme me dit il faut prendre du recul pour ne pas considérer que ça soit un bébé. Le recul, je l'ai pris et maintenant je suis prêt à donner. La première fois, on a répondu au courrier en disant qu'on les conservait parce qu'on avait notre bébé en face de nous. Et là, maintenant, on a changé d'avis, on se dit qu'on va les donner. Donc le temps, mais aussi la parenté, me semble-t-il, aide les parents à externaliser, à se désapproprier leurs embryons, quand bien même in vitro et congelés. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ces embryons, ils sont totalement à l'extérieur d'eux-mêmes, ils ont été faits à l'extérieur d'eux-mêmes, et ils sont donc désormais bel et bien à l'extérieur du corps de ces personnes. Alors, si ces personnes qui ont déjà un enfant acceptent de les donner plutôt que de les détruire, ça n'est pas seulement en raison de convictions morales ou religieuses. Je rappelle que, par exemple, pour l'Église, pour le dogme catholique, l'embryon est une personne. Mais c'est aussi en raison de leur place désormais de parents. Un homme, par exemple, son enfant dans les bras, donc parce que je fais les entretiens souvent au domicile des personnes, et donc cet homme, son enfant dans les bras, considère, au début, quand on a commencé tout le parcours, quand on a commencé la FIV, je considérais ces embryons simplement comme des cellules. Je ne m'imagine pas maintenant détruire les embryons restants. Le détruire, ça serait comme les jeter à la poubelle. Maintenant que j'ai des enfants, je vois ce que c'est devenu cet embryon, et je ne peux même pas imaginer cela. Certains parmi ceux que j'ai rencontrés ont été élevés dans la religion catholique et certains même pratiquent. Et pour autant, et c'est ça aussi qu'on peut relever, c'est qu'ils ne rattachent pas leur représentation de l'embryon au dogme. Et au contraire, c'est plutôt, enfin pas au contraire, mais ce qu'ils rattachent à leur religion, enfin au fait d'être catholique, c'est le geste de donner, c'est cette solidarité, ce sont des valeurs. Moi, je fais partie d'associations, je fais le catéchisme, je fais de l'alphabétisation. Et donc je donne, et je suis catholique, je donne mon embryon, non pas parce que c'est une personne, mais parce que c'est une valeur à laquelle je crois. Donc autre chose, dernier point de cette diapositive, c'est que les donneurs rencontrés ne considèrent leur démarche acceptable que dans le cadre français légal, qui est, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, très rigoureux. Donc ensuite, représenter, imaginer un embryon. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, pour évoquer avec eux la représentation de l'embryon, j'ai choisi de demander à certains de mes interlocuteurs, et en fait j'ai eu l'idée en cours d'enquête, donc c'est pour ça qu'il n'y a que la moitié des gens qui m'ont répondu, c'est que l'idée m'est survenue en écoutant une doctorante, Anne-Sophie Giraud, qui a fait sa thèse sous la direction d'Irène Théry et de Dominique Mémy, et donc voilà, donc l'idée m'est venue en l'écoutant. Donc j'ai 8 couples, 4 couples donneurs, j'ai eu de la chance, et 4 couples receveurs qui ont accepté de dessiner un embryon. Et donc c'est... Et donc ça donne à voir, me semble-t-il, je vais évidemment vous montrer les dessins dans une minute, ça donne à voir, me semble-t-il, au sens propre du terme, la façon dont ils se représentent un embryon. Alors, ils n'ont pas tous fait des études, hein, les couples que j'ai rencontrés, ils ont néanmoins quelques souvenirs scolaires. De toutes les façons, ils vont souvent sur Internet, hein, et trouvent des images d'embryons. Et ces dessins, vous allez le voir, vont s'éloigner quand même pourtant de la représentation verbale qu'ils en donnent, car ils sont bien souvent assortis de précisions montrant que ces embryons ne sont pas confondus avec une personne. Alors, il ne faut pas non plus, ce que je dis ensuite, c'est de négliger la dimension de l'humour. C'est-à-dire que lorsque je leur demande de dessiner, les couples commencent le plus souvent par sourire et généralement à se moquer de moi en plus et à commenter le dessin du conjoint, à lui dire « s'il te plaît, t'arrêtes de copier », un autre me disant « alors maintenant, vous nous faites travailler, remarquez, ça me change de dessiner moi un mouton », etc. » La crainte aussi, alors au-delà de l'humour, aussi la crainte parfois de ne pas bien faire. Hein. Je redis aussi que les personnes que j'ai rencontrées sont issues pour la moitié d'entre eux de milieux très populaires. Et voilà, face, il y a un effet d'imposition. Je suis chercheur, je leur demande de dessiner un embryon. Donc il y a aussi des réticences à dessiner cet embryon sur le thème « Oula, je vais me planter, je ne vais pas réussir ». C'est une expression qu'a employée un monsieur. Il m'a dit « Non, mais moi je ne vais pas réussir à vous le faire, moi je n'ai pas été à l'école ». En même temps, à une reprise notamment, ça m'a permis de complètement décoincer une situation d'entretien où j'avais un couple qui ne parlait absolument pas, et à partir du moment où je leur ai demandé à tous les deux de dessiner un embryon, je sais pas, ça a allégé l'entretien et ils se sont mis ensuite à parler plus facilement. Alors, autre chose intéressante, c'est que la plupart, je vous ai dit que j'ai fait des entretiens au domicile des personnes, mais certains sont faits également à l'hôpital, dans lequel on me laissait la salle de consultation. Et dans cette salle de consultation, précisément, il y a des dépliants avec des photos d'embryons. Donc, il y a une visibilité scientifique, pourrait-on dire, de ces embryons. Il n'empêche, quand je demande aux gens de me dessiner des embryons, et bien ils dessinent ce qu'ils s'imaginent, eux, comme un embryon. Et il y a un monsieur qui du coup d'ailleurs me dessine un embryon, s'aperçoit qu'il y a la photo à côté de lui et qui dit « Ah bon, c'est pas très bien dessiné, mais j'aurais pas eu zéro à l'interro ». Donc il corrige un petit peu. Alors, qu'est-ce que maintenant, voilà, les dessins que j'ai pu recevoir, donc je vous ai distingué les couples donneurs et les couples receveurs. Alors là, c'est un premier couple, ils sont tous les deux, donc Florent et Yvette, là, à gauche, ils sont tous les deux employés. Elle me dessine ce petit cercle, elle me dit « Oulala, moi j'ai jamais été très douée en SVT, en sciences naturelles d'ailleurs, me dit-elle, donc pour moi je pense que c'est ça ». Son mari, lui, il ne veut absolument pas, au départ, me dessiner. Donc ça, c'est des coupes de donneur. Hein. Il ne veut absolument pas me dessiner cet embryon. Et il me répète en boucle, c'est rien. Un embryon, c'est rien. Et donc sa femme lui dit, non mais, aux 5 minutes. Bon, ça lui dit, bah, écoute, il faut absolument que tu continues. Voilà, donc il finit par me faire ce dessin. Donc, autre couple d'honneur, Baptiste et Florence, je suis désolée, le Florence est parti de l'autre côté. Et alors là, les deux sont cadres et elle a fait en fait un DEA de biologie cellulaire, m'explique-t-elle, donc ce qui explique cette représentation beaucoup moins, enfin beaucoup plus conforme à une réalité un petit peu scientifique. Ensuite, vous avez Joséphine et Marc. Donc, en fait, les deux, on ne pourra pas accepter leur embryon. Et donc, lui dessine une espèce de petit haricot avec un petit sourire. Là, on ne le voit pas, mais lui me dit, il y a un petit sourire. Et il me dit, un embryon, c'est le cœur de la vie. Donc, dernier couple d'honneurs, Cindy et Thomas. Donc, elle, Cindy me dessine, elle aussi, un petit haricot doté d'un œil et d'un petit cœur. C'est un petit cœur qui bat, me dit-elle. Voilà, et son mari, il va dessiner ce petit rond. Donc les donneurs s'assurent que l'embryon n'est pas un enfant, et ils peuvent quand même parfois se le représenter comme un enfant potentiel. Alors ensuite, du point de vue des receveurs, donc vous avez ce premier cas, et donc là, la femme, elle me dessine juste un petit cercle. Lui me dit, il y a un petit noyau avec un cercle. La femme, ensuite, si vous avez un autre couple à droite, donc elle est, c'est une femme qui passe beaucoup de temps dans l'entretien à me dire, elle a fait beaucoup de fausses couches. Et voilà. Et elle me dit, moi, cet embryon, j'en attends beaucoup. Et cet embryon, c'est un enfant. Ça sera, c'est un enfant. Donc elle me dessine, comme vous pouvez le constater, un petit enfant. Et dans les fausses couches, il y en a une qui a eu lieu à 6 mois à 5 mois et demi de grossesse. Donc voilà. Elle considère qu'elle a accouché d'un enfant mort-né. Voilà. Donc elle me représente ça comme embryon. Son mari, lui, me dessine ceci avec ça. Me dit-il, c'est le symbole du masculin, donc parce qu'il voit, enfin, avec un petit spermatozoïde là qui viendrait féconder l'œuf, me dit-il. Ensuite, vous avez ces deux personnes. Donc la dame, elle, pour le coup, elle regarde les photos qu'il y a sur le bureau en face de moi. Elle me dessine ça. Et son mari refuse obstinément de dessiner un embryon. Donc elle prend le cahier, c'est sur mon cahier d'observation, et elle dessine ce petit cœur. Elle lui dit, ah ben moi, je vais vous dire ce que c'est pour lui un embryon, c'est ça. Et donc du coup, il est un petit peu agacé. Il dit non, non, pas du tout. Et il dessine ce petit point. Et dernier couple, ça c'est un couple où elle essaye d'être le plus légère possible pendant l'entretien. Donc lui me dessine ceci en me rappelant ses souvenirs. Il essaye de rechercher dans ses souvenirs de cours. Et elle me dit, bah voilà, pour moi, c'est un petit cœur. Voilà, donc j'étais un petit peu vite. Donc du côté des receveurs, j'ai donc ces représentations parfois plus imagées qui sont vraiment, me semble-t-il, interprétées aussi en fonction du vécu des personnes dans leur parcours d'AMP. Eh bien, du coup, j'ai tellement accéléré que j'en arrive à ma conclusion. donc on voit bien ici, me semble-t-il, comment l'embryon représenté n'est pas forcément déjà celui imaginé. Donc il y aurait véritablement un travail à faire sur la question de représenter imaginé. Ce qu'on peut dire également, que le statut qu'acquiert cet embryon dépend autant d'une temporalité que du faisceau de relations dans lequel il s'inscrit, et de la place aussi qu'on va occuper dans ce faisceau, parents potentiels, parents déjà, etc. Autre chose, donc les donneurs comme les receveurs, tous les acteurs de l'accueil d'embryons repensent, semble-t-il, la famille, et notamment c'est de la question d'une représentation biologique de la famille. À noter également, c'est une question que je n'ai pas encore analysée, mais est intéressant, la plupart des receveurs que j'ai rencontrés, donc qui sont issus, comme je vous l'ai dit, de milieux populaires, m'ont tous dit sans exception, qu'ils avaient renoncé à l'adoption, parce qu'évidemment c'est une question que je pose, puisqu'il n'y a aucun lien génétique entre un embryon qu'on vous donne et voilà, comme pour l'adoption, et ils me disent on a renoncé à l'adoption parce que les services sociaux sont venus à la maison et qu'on ne franchit pas les critères de l'adoption. Donc en tous les cas, ils repensent véritablement la famille et s'accommodent aussi du poids de l'institution dans la désignation de qu'est-ce que c'est qu'un bon parent, etc. L'autre et dernière chose, c'est que bon, s'ils repensent la famille, toutes ces personnes-là, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est repensée néanmoins dans le cadre référent somme toute traditionnel, avec, mais je ne pourrais pas m'apesantir là-dessus, deux parents, du masculin et du féminin. Voilà, je vous remercie de votre attention et désolée d'avoir accéléré la fin.
Nous allons maintenant écouter Laura Bossy-Régnier. Donc, tout à l'heure, elle a posé des questions. Donc, elle vous a dit qu'elle était neurologue et historienne des sciences. J'ajouterai qu'elle est en train d'écrire un livre sur Haeckel, mais qu'elle a, et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui aussi, beaucoup travaillé sur les frontières de la mort et donc toute la question des conventions par lesquelles on définit la mort entre sociale et biologique. Laura, je te ferai signe.
Merci.
Je te ferai signe pareil, 5 minutes.
Oui, avant la fin. Je pense que je vais déborder très légèrement parce que j'avais compris que j'avais une demi-heure. Donc, je vais essayer de faire le plus court possible. En tout cas, merci Marie de m'avoir invitée. Pendant des millénaires, on a considéré qu'un homme était mort lorsque son âme quittait son corps, lorsque l'âme souffle s'envoler avec un dernier soupir, lorsque l'âme sang s'écoulait par une blessure ouverte, le vieillard s'éteignait comme une chandelle lorsque son cœur, foyer de la chaleur vitale, s'arrêtait de battre. La mort était familière et on mourait beaucoup, et les soins aux mourants et aux morts n'étaient pas confiés à des spécialistes comme aujourd'hui. On reconnaissait la mort parce qu'elle se manifestait par l'arrêt du mouvement, l'arrêt de la respiration, du cœur, le regard devient vitreux, le corps froid, pâle, puis dur et rigide. Après un certain temps, il se décompose, il exhale des odeurs fétides, il faut lui donner une sépulture et la chair devient cendre et poussière. Pourtant, chez les Grecs déjà, les signes de la mort sont tenus pour incertains et trompeurs. Il se peut qu'un mort ne soit pas vraiment mort et que celui qu'on croyait perdu à jamais revienne à la vie. Depuis Hippocrate, et sans doute bien avant lui, les médecins se sont penchés sur ce moment, sur ce passage où l'homme dévissait mieux un cadavre. Et ils se sont posés, comme les médecins aujourd'hui, des questions pratiques. Comment prédire la mort? Et bon, c'est le faciès hippocratique, les signes pronostiques de Sels. Comment établir le moment de la mort? C'est une question de médecine légale. Et comment différencier la mort de la mort apparente? Pendant 2500 ans, en gros, et jusqu'au milieu du XXe siècle, les médecins se sont accordés pour établir que l'arrêt du cœur était le critère plus sûr de la mort. La découverte de la circulation sanguine par Harvey en 1628, celle du rôle de l'oxygène par Lavoisier à la fin du XVIIIe siècle, puis l'invention du stéthoscope par Laennec et de l'électrocardiogramme en 1903 ont permis de mieux comprendre et reconnaître l'arrêt cardio-circulatoire. Les techniques de réanimation se sont développées au XVIIIe siècle par crainte de l'inhumation prématurée. Là, vous avez un exemple. Il y a une véritable épidémie de crainte d'être un sévili vivant au XVIIIe siècle. Et donc, on a commencé à développer des fumigations, des stimulations électriques et après des premières tentatives de réanimation par respiration artificielle chez les noyés. Ensuite, on a développé le massage cardiaque externe et finalement le défibrillateur cardiaque en 1947, donc on est au milieu du XXe siècle. Le but restait toujours le même, réanimer, donc ramener l'âme au corps, ramener à la vie le mourant, et surtout ne pas traiter un vivant comme un mort. Par conséquent, il était important de s'assurer avec certitude de la mort et de laisser un certain temps entre le constat de la mort et l'inhumation. Ce temps était variable selon les cultures, mais était présent dans toutes les cultures. Chez les Perses, raconte Hérodote, on attendait les signes de la putréfaction. Chez les Grecs, on gardait les morts à la maison pendant 3 jours avant l'enterrement. Chez les Romains, on attendait 8 jours avant l'incinération. Même chez les Juifs et les musulmans, où le cadavre doit être enseveli très rapidement, un temps est laissé pour la toilette du défunt, pour la prière, pour une veillée mortuaire. Et pendant ce temps d'attente où on ne fait rien, la famille a la possibilité de se rendre compte de la mort du proche et de prendre congé. Ce n'est qu'à la fin des années 1960 qu'un changement radical s'est produit. D'un côté, les techniques de réanimation cardio-pulmonaire et la circulation extracorporelle permettent désormais de rétablir la respiration et la circulation et donc de maintenir en vie presque indéfiniment des patients avec des fonctions cérébrales gravement atteintes. De l'autre, avec le progrès de la technique des greffes, se pose le problème de trouver des donneurs d'organes. Et l'accent se portera donc sur le cerveau et sur les critères de mort encéphalique. Le but étant donc de ne plus, non plus de ne pas traiter un vivant comme un mort, mais de ne pas considérer comme vivant quelqu'un qui serait déjà mort et qui pourrait être donneur d'organes. Comment on en est arrivé là? La vie était considérée comme s'achevant naturellement dans la mort par un grand passage vers l'au-delà jusqu'au grand siècle en fait. Et déjà au XVIIIe siècle, on a commencé à considérer et à appréhender la mort comme un processus. Déjà Buffon, dont on a... Oups, je suis allée en arrière. Buffon a déjà exprimé clairement cette idée dans son Histoire naturelle. Il disait « Le corps meurt peu à peu et par partie, le mouvement diminue par degrés, la vie s'éteint par nuances successives » et la mort n'est qu'un dernier terme de cette suite de degrés. Mais la véritable définition de la mort comme processus vient du grand anatomiste Xavier Bichat, qui a vécu lors de la Révolution, a pu donc examiner pas mal de cadavres de guillotinés. Et c'est lui qui a séparé clairement la vie organique, que nous appelons végétative, de la vie animale ou vie de relation. La première est continue, elle a pour centre le cœur, la circulation, la respiration, la sécrétion, la nutrition ne s'arrêtent jamais. La deuxième est intermittente et ses organes, le cerveau, les nerfs et les muscles, ont besoin de se reposer dans le sommeil. C'est ce qu'il appelle joliment les sommeils partiels des organes. La vie organique débute à la conception, avant la vie animale, qui ne débute véritablement qu'à la naissance. Et dans la vieillesse et à l'agonie, elle peut survivre à la mort de celle-ci. Et Bichat pousse encore plus loin la fragmentation de la mort en décrivant le premier comment la mort débute avec la mort l'un des trois organes vitaux et ensuite se propage aux autres organes. Donc la mort du cœur entraîne la mort du cerveau et des poumons par l'arrêt de la circulation. La mort des poumons, par exemple par asphyxie, entraîne celle du cœur et du cerveau par l'arrivée de ce qu'il appelle le sang noir, donc non oxygéné. La mort du cerveau, enfin, entraîne celle des poumons, puis indirectement celle du cœur et des autres organes. Le moment suprême donc de la mort, la grande mort chrétienne, le passage, etc., est fractionné en une suite de morts partielles, morts de sous-ensemble fonctionnel de l'organisme, qui finalement entraîneront la mort de l'ensemble. Cette fragmentation se poursuit de manière encore accélérée au XXe siècle avec les travaux de trois groupes de professionnels, les biologistes cellulaires, les biologistes des organes qui sont les chirurgiens transplanteurs spécialisés dans les greffes et les médecins réanimateurs. La biologie moderne a montré donc que le temps de la mort après l'arrêt de la circulation, ce qu'on appelle aussi l'ischémie chaude, est différent pour chaque type de cellule et pour chaque tissu, pour chaque organe. Par exemple, on peut faire vivre une culture des cellules de la peau prélevées 24 heures après la mort sur un cadavre, et même des cellules nerveuses, donc des neurones, prélevées 8 heures après la mort. La résistance des organes à la privation d'oxygène est différente. La cornée, comme on sait, résiste jusqu'à 7 jours. Les reins sont plus résistants que le foie et le cerveau est le moins résistant de tous les organes. Et enfin, On a, au milieu des années 50, des chercheurs français, en particulier l'équipe de Mollaret et Goulon, ont découvert que le cerveau nécessite un apport d'oxygène supérieur à tous les autres organes. Et on a décrit des cas où le cerveau cesse de fonctionner alors que d'autres parties du corps peuvent retrouver la vie en sortant du coma, notamment, si on rétablit la circulation. Et à l'intérieur du cerveau, le cortex des hémisphères est plus sensible que le tronc, donc la région responsable de la respiration. Et on a décrit des patients en état végétatif permanent, chez lesquels le tronc cérébral est encore vivant, tandis que le cerveau dit supérieur ou néocortical ne fonctionne plus. Ces patients peuvent respirer sans assistance, mais ne pourront probablement jamais reprendre connaissance. Donc, il y a aussi... À l'extrême limite du coma, on a décrit, donc ça, les premières descriptions datent de 59, ce que Mollaret et Goulon ont appelé le coma dépassé. Donc c'est un ultime degré du coma où l'abolition de toute vie de relation s'ajoute, à cette abolition s'ajoute non des perturbations, mais une abolition totale des fonctions de la vie végétative. Les auteurs, à l'époque, considèrent ces patients comateux comme un corps vivant, mais d'une vie très amoindrie, en fait, rappelant la préparation cœur-poumon des physiologistes. Ce sont des décérébrés. Est-ce que sans le développement des technologies permettant les greffes, on se serait posé la question de savoir si ces patients étaient encore morts ou vivants ? Probablement pas. On aurait sans doute parlé, comme Mollaret et Goulon, de coma dépassé, de coma irréversible. On est effectivement à la fin d'un processus. Ou peut-être des défaillances d'arrêt des fonctions cérébrales. Et on aurait sans doute formulé la question de la futilité des soins, de l'acharnement thérapeutique, de la suspension de la réanimation, ce qu'on appelle aujourd'hui des thérapeutiques actives. Mais on n'aurait pas changé la définition de la mort. Le fait est que la technologie de greffe a progressé très rapidement, au point qu'aujourd'hui, on peut remplacer par transplantation tous les organes vitaux, sauf le cerveau. On a effectué avec succès la première greffe de rein en 54, de cœur en 67, de foie en 72, de bloc cœur-poumon en 91, de poumon en 83, etc. J'en passe. Ces avancées ont imposé la nécessité de trouver des organes assez vivants pour être transplantés, et chez des donneurs assez morts pour être déclarés légalement morts. Et c'est en 68, quelques mois après la première greffe de cœur effectuée par Christian Barnard en décembre 67, que l'école de médecine de Harvard a proposé une nouvelle définition de la mort fondée sur la perte complète et irréversible de l'activité cérébrale, qui cette fois ne vise donc pas à empêcher des vivants d'être traités comme morts, mais au contraire que des morts ou presque morts donneurs potentiels d'organes ne soient traités comme des vivants. Le rapport de Harvard débute avec une grande franchise, je l'ai traduit pour vous en français, il dit que notre principal dessein est de définir le coma irréversible comme un nouveau critère de mort. Une telle définition est nécessaire pour deux raisons. Les progrès dans les techniques de réanimation et les thérapies de support ont conduit à des efforts tentant à sauver des malades dans des conditions désespérées. Et parfois, ces efforts n'ont qu'un succès partiel. Les résultats est un individu dont le cœur bat, mais dont le cerveau est irrémédiablement lésé. Le fardeau est lourd pour ces patients qui souffrent d'une perte permanente de l'intellect, pour leurs familles et les hôpitaux, et pour ceux qui auraient besoin des lits hospitaliers occupés par ces patients comateux. Deux, des critères obsolètes pour définir la mort peuvent conduire à des controverses lorsqu'il s'agit d'obtenir des organes pour les greffes. Regardant rétrospectivement, il est assez surprenant de constater que le rapport n'essaye même pas de soutenir la thèse que les lits des hôpitaux sont encombrés par des malades qui en fait sont morts, mais qui restent attachés au respirateur parce que la loi ne les reconnaît pas comme morts. La commission dit au contraire que ces patients comateux sont un poids pour eux-mêmes et pour la société, mais bon, ce qui est quand même bizarre, on comprend mal comme un mort peut être un poids pour soi-même, et qu'il y a un problème pour le don d'organes. Aussi, il n'y a quand même pas une distinction très claire entre des patients en état végétatif persistant et des patients de ce qu'on appelle aujourd'hui un état de mort cérébrale. En conclusion, le rapport propose donc de considérer que la condition neurologique qu'on a pu définir mort encéphalique, brain death, ou coma irréversible, indique un dysfonctionnement diffus avec une abolition des fonctions du cerveau supérieur, du tronc et parfois aussi au niveau spinal. Mais on voit dans le choix des mots, en fait, déjà qu'il y a un passage du diagnostic au pronostic, un peu. On se situe sur, au niveau du processus de l'irréversibilité. bon, je vais pas sur en conclusion, bon, le comité donc propose des critères, je passe sur les critères sinon je ne vais pas du tout tenir dans mes temps, et qui ont été quasiment le codex de la médecine des greffes. À la suite de cette publication, le National Institute of Health a organisé un programme de recherche et en 1981, la commission présidentielle pour l'étude des problèmes d'éthique en médecine a produit un rapport qui répond à trois questions. Quel concept de mort faut-il adopter? Quel est le statut légal des patients en état de mort encéphalique? Et comment la mort encéphalique est diagnostiquée? Et les conclusions ont été les suivantes. Le malade dont tout le cerveau est mort, donc, et ceux dont le tronc cérébral est mort, brainstem death, sont morts, car le cerveau, et en particulier le tronc, est l'intégrateur de tous les systèmes d'organes du corps. Sans cette activité d'intégration, la vie des organes peut être maintenue artificiellement dans une unité de réanimation, mais elle ne constitue pas une vie organismique. La proposition du mort néocortical, donc le higher brain death, qui déclarerait comme mort les patients en état végétatif persistant, est écartée, parce qu'évidemment, elle aurait la fâcheuse conséquence d'enterrer des patients qui respirent spontanément. La définition... Cette définition est ensuite entrée dans la loi par le Uniform Determination of Death Act, UDA, et a été recommandée à toutes les instances législatives des États-Unis. Donc, est donc mort un sujet soit ayant subi un arrêt cardio-circulatoire et respiratoire irréversible, soit une cessation irréversible de toutes les fonctions du cerveau. En France, la France a été le premier pays, en fait, bien avant les États-Unis et même avant la Finlande, qu'on cite parfois comme le premier pays à avoir intégré la définition de mort encéphalique dans la loi, à légaliser la mort encéphalique par la circulaire Jeanneney déjà en 68. Et elle est mieux définie et plus cohérente, la définition française, même parce qu'elle ne parle pas de deux morts, ce qui peut confondre des idées, mais elle dit que la véritable mort est la mort encéphalique et que, en fait, chez un patient chez lequel le cœur s'arrête, évidemment, ça entraînera la mort du cerveau. Donc, il y a une différence, pas de mort dans la mort, mais dans les modalités de la déterminer. Le consensus était apparemment total, porté par le succès des greffes. Donc les greffes sont un bien et elles ont eu un grand succès. Toutefois, il y a une certaine confusion persistante, comme le montre par exemple Almodovar dans son très beau film La fleur de mon secret, et dans d'autres films aussi, il se penche beaucoup sur ce problème des états un peu intermédiaires. Les médecins sont souvent dans l'embarras lorsqu'il s'agit d'expliquer aux familles ou de convaincre une mère éplorée que son fils qui respire encore, qui est rose, qui paraît endormi, est déjà mort. Comment lui expliquer qu'on souhaite son accord pour prélever des organes vivants d'un corps mort qui paraît vivant? Et aussi, le personnel de santé souvent accepte bien sûr la définition de mort encéphalique, mais pour des raisons parfois incohérentes, en particulier une confusion entre un arrêt fonctionnel et une destruction totale du cerveau, et une confusion entre une définition un peu pronostique, donc à un moment de l'irréversibilité du procès, et un diagnostic, donc une mort vraiment établie. Aussi plus embêtant, il persiste des disparités étonnantes dans les critères persistants, un diagnostic des morts encéphaliques dans les différents pays et dans les différentes équipes dans le même pays. Bon, là, c'est une revue américaine de 2006 qui... Ouais. Je vais essayer d'aller plus vite. Et donc, théoriquement, un patient pourrait être vivant dans un pays et déclaré mort dans l'autre. Ces critères ont fait l'objet d'une série de critiques venant de médecins et de philosophes appartenant à des traditions des pensées différentes, voire opposées. La position utilitariste a été défendue avec beaucoup de franchise par un anesthésiste et professeur d'éthique médicale à Harvard, Trog, et par Peter Zing, qui propose de reconnaître que le patient n'est pas mort mais mourant et de renoncer aux critères de mort encéphalique qui seraient inutilement contraignants et hypocrites. Par contre, les philosophes... Voilà, ça c'est le principe d'honneur mort qui guide la pratique des greffes. Par contre, parmi les philosophes, Hans Jonas a réagi rapidement et d'une manière très articulée à ce qu'il appelle un changement pragmatique de la définition de la mort qui volerait au patient sa propre mort pour une fin distincte, c'est-à-dire l'utilisation de ses organes pour un autre patient. Sa définition, qu'il définit comme d'emblée comme contre-courant, et elle est restée, est fondée sur ce qu'on appellera plus tard le principe de précaution. Étant donné qu'on ne connaît pas avec précision la ligne de démarcation entre la vie et la mort, il faut se fonder sur une définition la plus conservative possible et non sur une définition basée sur une nécessité pragmatique. Évidemment, Jonas ne s'oppose pas à l'arrêt pratique de l'arrêt de la réanimation, mais dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de modifier la loi. Ce qu'il a d'emblée et clairement identifié comme inquiétant, c'est donc l'introduction d'une deuxième fin, l'anticipation du moment de la déclaration de la mort. Est-ce qu'un changement de définition, une décision humaine, un décret peut justifier ce changement ? Il a aussi précisé dans un essai trois arguments, je n'ai pas le temps de les développer ici, mais l'un c'est la centralité donc, de la préoccupation pour les greffes, l'autre c'est qu'il n'est pas nécessaire, les données scientifiques ne peuvent pas nécessairement être précises, et surtout aussi, et c'est ce troisième point qui est au cœur de la discussion d'aujourd'hui, il critique la justification scientifique de la mort cérébrale par l'idée que le cerveau est un intégrateur de tous les processus de l'organisme. Cette première réaction de Jonas a suscité une série de beaucoup de débats aux États-Unis. Il a été invité par les médecins, en particulier le docteur Henry Beach, qui est un des fondateurs de ces critères, et qui a exprimé avec clarté qu'on ne peut pas se permettre, « cannot afford », de jeter les tissus et les organes de ces patients comateux, etc. Mais ce modèle de l'organisme et d'intégration somatique, en fait, selon Jonas, nie le rôle du corps dans l'individuation. En allemand, il y a deux mots d'ailleurs, Körper et Leib, pour indiquer le corps qui peut être un corps non vivant et Leib, le corps vivant. On tombe amoureux d'un corps vivant, mais pas d'un cerveau, et le corps est important pour l'individuation. Aussi, il souligne que la morale de notre temps n'accepte pas la mort et manque de piété. Ces arguments ont été repris récemment. Je suis vraiment désolée parce qu'on m'avait dit que j'avais une demi-heure, donc là je vais sauter sur cette partie. Ces arguments ont quand même été repris récemment. Les arguments en particulier de l'intégration de l'organisme ont été critiqués, à mon avis avec pas mal de succès, par l'observation de pas mal de cas de survie prolongée en état de mort cérébrale, et surtout par plusieurs cas de grossesse chez des mères en état de mort cérébrale qui ont donné lieu à la naissance d'enfants vivants. Donc, vous lisez les titres des éditoriaux Brain Death and Live Birth. Jonas a commenté là-dessus. Et aussi un physiologiste américain qui, au début, défendait les critères de mort cérébrale a publié beaucoup de cas, en particulier des malades qui survivent, mais aussi l'observation de beaucoup de fonctions du cerveau qui sont quand même des fonctions intégratrices qui ne permettent pas de parler d'un manque d'intégration. Et ces critiques ont été accueillies dans un rapport de 2008 sur les controverses dans la détermination de la mort du comité éthique de la présidence des États-Unis. Bon, je vais sauter tout ça. Si les critères de la mort cérébrale restent controversés aujourd'hui, ne le sont pas dans la pratique, en fait, parce que ces patients sont un réservoir idéal d'organes, mais ils ne sont pas suffisants. Et la pénurie de greffons, je déteste ce terme que je trouve masque l'horreur de la mort des donneurs, mais c'est souvent employé, incite, cette pénurie incite une recherche d'autres sources de récolte d'organes. Ainsi, dans les 15 dernières années, on a développé des protocoles à cœur arrêté. Donc, ces protocoles utilisent des donneurs chez lesquels... L'arrêt cardiaque peut se manifester, il y a des catégories qui ont été définies à Maastricht en 2003, soit de manière imprévue, soit de manière programmée. On parle alors de donneurs à cœur arrêté dans des protocoles contrôlés. Je vais me concentrer sur ces derniers, sinon on n'y arrivera pas, qui ont été développés, je ne sais pas pourquoi ça marche tout seul, et qui pose des problèmes bioéthiques importants. J'espère que cette fois, ça va s'arrêter là. Voilà. Alors, les patients qui sont donneurs dans cette catégorie, je suis désolée, il est capricieux. Je le pose, sinon je risque de le toucher. Ces patients sont des malades qui sont dans des protocoles d'arrêt des thérapeutiques actives, donc dans des protocoles de fin de vie. Et dans ces cas, on arrête les... je parle de Maastricht 3. On arrête le soutien de réanimation, les thérapeutiques actives, et cet arrêt induit un arrêt cardiaque. Et on déclare la mort après un temps très court. Dans certains protocoles, les premiers, ce temps était véritablement très très court. En particulier, le protocole de Pittsburgh, la mort était déclarée après 2 minutes. Maintenant, en général, on attend 5 minutes. Et après la publication du premier protocole, ces protocoles ont induit des réactions très vives, notamment auprès de l'historienne des greffes Renée Fox, qui avait participé à la définition de mort cérébrale et qui a utilisé un terme très fort. Elle a parlé d'une forme de cannibalisme. En fait, on peut parler et parfois des pratiques vraiment des passages qui sont... qui s'approche d'une décision de mort pour donner les organes. En particulier, il y a eu un cas qui a suscité beaucoup de débats aux États-Unis, de 3 enfants qui ont été déclarés morts par arrêt cardiaque et chez lesquels ce sont les cœurs qui ont été transplantés après un arrêt de 75 secondes ou 3 minutes. Donc là, on se pose évidemment le problème d'une déclaration de mort, d'une mort qui... n'est pas irréversible parce qu'on a réutilisé les cœurs et on aurait pu les réanimer, où la réversibilité, en fait, et l'irréversibilité n'est pas biologique, n'est pas physiologique, mais elle est due à la décision des médecins et de la famille qui a donné son accord de ne pas réanimer. Donc, c'est un glissement des critères de la mort devrait nous préoccuper. Alors, où est-ce que nous allons ? Effectivement, on abandonnera peut-être le principe du donneur mort, qui est revendiqué de plus en plus dans la littérature américaine, au nom de la transparence. Et les critères... pour ce qui concerne les critères de mort... après arrêt cardiaque, j'aimerais bien éventuellement qu'on puisse en reparler parce que ça pose beaucoup le problème, c'est ma dernière diapositive, ça pose beaucoup le problème de l'interaction de ces critères avec le principe d'un consentement au don. Évidemment, dans ces cas-là, le consentement ne peut pas être un vrai consentement. En France, on est en train de passer d'un principe du don à un concept de dette sociale, de solidarité de don, mais ceci pose des problèmes. dû un malentendu.
Merci beaucoup. Avant la mort, on va peut-être réfléchir sur le vieillissement. Et donc, on va laisser la parole à Fabienne Ojard, qui est donc directrice de recherche CNRS, mais au Muséum d'Histoire Naturelle et qui travaille donc au centre de Brunois.
Merci Martine. Merci. Donc, merci beaucoup à la Mission pour l'interdisciplinarité pour son invitation. Donc, je vais donc vous parler de comment reculer le vieillissement ou peut-on reculer le vieillissement. Donc, le thème de ce colloque est « Qu'est-ce que la vie ?» Alors, un clin d'œil sans aucune prétention étymologique, mais avant de dire que la vie, c'est la mort, bien la vie, c'est aussi cela. Et donc, le vieillissement, c'est l'illustration anticipée de la fin de la vie. Et pour tout être humain, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender et que l'on aimerait voir arriver le plus tard possible. Alors, le mythe de l'éternelle jeunesse est illustré sur ce tableau. Vous pouvez voir donc des vieilles femmes amenées sur des brancards qui sont plongées dans cette fontaine de jouvence, ressortent rajeunies et sont attendues par des messieurs pour profiter pleinement et le plus longtemps possible des plaisirs de la vie. Et donc, ceci illustre une des préoccupations de l'être humain dont je vais vous parler. Alors, si on prend une notion assez simple, qu'on peut trouver très facilement, comme je l'ai fait d'ailleurs sur Internet, la notion de vieillissement décrit une ou plusieurs modifications fonctionnelles diminuant progressivement l'aptitude d'un organisme à assurer ses fonctions. Donc, dans cette définition assez simple, il y a des mots-clés qui sont forts en interprétation. Alors le terme progressivement, alors oui, le vieillissement est quelque chose qui évolue au cours du temps et qui diminue l'aptitude d'un organisme à assurer ses fonctions. Et là, on est dans la notion du fait de devenir inapte. Et ceci est appréhendé de façon très différente en fonction des cultures. Et autant il y a certaines cultures qui valorisent le passage dans le troisième âge, comme on dit, ou le quatrième, qui le valorisent à travers l'expérience, la sagesse ou la fonction qu'on va pouvoir donner aux personnes âgées dans la famille ou dans la société. Il y a des cultures qui, au contraire, mettent un accent très négatif sur le vieillissement, comme dans nos cultures, où on attend d'un être qu'il reste autonome, qu'il puisse se prendre en charge le plus longtemps possible, où il n'y a pas de collectif prévu, enfin peu en tout cas, pour gérer ces inaptitudes. Et donc on comprend bien le poids que cela représente. Dans le contexte du vieillissement, on va vouloir ne pas avoir de rides, on va vouloir pouvoir se déplacer facilement le plus longtemps possible, faire un maximum d'activités soi-même, conserver une libido, des fonctions physiologiques intègres. Et c'est ces phénomènes-là qui poussent l'être humain à se poser des questions sur le vieillissement. Est-il modulable et peut-on donc le contrôler ? Alors, les facteurs qui modulent le vieillissement sont en partie génétiques, vieillissement dit intrinsèque, et en partie liés à l'histoire de vie de chacun, sont des facteurs externes. Et on voit là qu'il y a une partie du vieillissement qui ne va pas être réellement modulable, mais qu'on va pouvoir agir sur des facteurs environnementaux, soit pharmacologiques, soit liés au quotidien des individus. Alors, schématiquement parlant, ici une illustration du processus de vieillissement. Donc la courbe 1 est une courbe théorique qui montre ce que deviendrait un vieillissement sain d'un individu qui ne subirait aucune maladie ou aucun accident. Et en théorie, cette courbe nous conduirait vers un âge maximal très très éloigné que nous n'atteignons jamais puisque nous subissons donc des accidents En rouge, vous avez ce qu'on appelle généralement les maladies chroniques. Bon, ça va être des erreurs répétées ou l'apparition de pathologies lentes comme le diabète ou des maladies neurodégénératives et qui vont donc accentuer l'inflexion de cette courbe et nous faire basculer sous un seuil de décompensation et donc nous conduire plus rapidement vers la mort. Enfin, en courbe 3, vous avez des facteurs aigus qui peuvent être des accidents cardiaques, des AVC, etc. Et qui, là, vont conduire beaucoup plus rapidement l'être vieillissant vers la mort. Donc, si on veut agir sur le processus de vieillissement, on va chercher à supprimer les facteurs aigus et on va essayer de tendre au maximum l'inflexion de la courbe des maladies chroniques vers cette courbe théorique de vieillissement sain. Et de ce fait, on agit sur deux paramètres, c'est-à-dire qu'on va augmenter la longévité et on va aussi diminuer l'incidence des pathologies liées au vieillissement ou au moins essayer de retarder au maximum l'âge où vont apparaître ces pathologies. Alors, nous sommes tous très hétérogènes face au vieillissement. Je vous ai mis ici juste l'exemple de Foja Singh, qui est un marathonien qui, à 100 ans, tout rond, a parcouru donc le marathon de Toronto en 8h25 minutes et 16 secondes et donc a obtenu un record de ce fait-là et représente donc un exemple de vieillissement dit réussi. Alors, pour avoir juste un petit retour historique sur les premières cures de rajeunissement qui étaient liées à des observations sur les phénomènes hormonaux, même si on ne les connaissait pas forcément tous encore. Largement au siècle passé, tout d'abord, Jens Steinach a préconisé des vasectomies chez l'homme en prétendant que ça allait booster la production de testostérone, et toujours, qui n'était pas connue à l'époque. Et toujours dans cette même idée, Serge Voronoff, quelques années après, a mis en place des greffes de tissus de testicules de singe dans le scrotum de l'homme, avec la même idée de pouvoir rajeunir les personnes vieillissantes. Ils ont eu leur heure de gloire pendant quelques années, puis ensuite, ça n'a pas vraiment donné les résultats escomptés. Alors, à l'heure actuelle, bon, il y a pléthore de théories sur le vieillissement. Je ne vais pas vous les présenter toutes, mais je vais juste illustrer mon propos avec celle-là. Donc, vous avez la programmation génétique, donc très schématiquement parlant, sur laquelle, chez l'homme, on ne va pas pouvoir agir. Sur des modèles animaux, on peut faire des mutations de certains gènes cibles qui augmentent la longévité. Mais là, on n'est pas sur ce genre de niveau chez l'homme, et même du moins, schématiquement parlant, chez les mammifères. Et il y a des théories qui visent à montrer que donc, ce sont les cellules qui se dégradent au cours du temps. Vous avez les télomères, donc lors de la réplication cellulaire, il y a perte des extrémités, enfin des extrémités des chromosomes qui se raccourcissent. Et donc ce raccourcissement finit par atteindre un niveau qui mène à la sénescence de la cellule et à la mort cellulaire. Vous avez également le fait que les cellules respirent et de ce fait-là produisent des radicaux libres qui sont toxiques pour les cellules et donc conduisent à la mort cellulaire. Ceci pour illustrer le fait qu'on a des théories qui mettent en évidence des mécanismes qui fragilisent les cellules et sur lesquels on pense qu'on pourrait agir soit pharmacologiquement, soit à travers des facteurs qui pourraient moduler les mécanismes sous-jacents. Alors, on va pas beaucoup parler de pharmacologie. Moi, je m'intéresse à des facteurs environnementaux et je vous en ai illustré ici certains. Vous avez, pour un vieillissement réussi, des facteurs importants comme la lumière, les rapports sociaux, l'entraînement cérébral, le fait d'avoir une vie où on rit, on a du plaisir, l'exercice physique, l'alimentation. Ces différents facteurs agissent sur des fonctions particulières. Par exemple, la lumière va vous permettre d'améliorer vos rythmes biologiques et d'avoir un meilleur rythme veille-sommeil. L'entraînement cérébral va pouvoir retarder les déficits cognitifs liés à l'âge, booster la mémoire, comme Guillaume Lecointre en avait parlé ce matin. Moi, je vais me focaliser sur l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est un facteur qui semble agir sur l'intégralité de l'organisme et donc agirait sur toutes les fonctions de l'organisme. Donc, c'est un paramètre donc, de ce fait-là particulièrement intéressant dans le contexte des protocoles anti-vieillissement. Alors, nous, on a travaillé sur la restriction calorique. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, la restriction calorique, c'est comment vivre plus vieux et mieux en mangeant moins, simplement en réduisant sa ration alimentaire sans modifier les ratios entre les différents nutriments. Ça vient d'où ? Eh bien, de plusieurs observations. Et pourquoi on s'y intéresse vraiment chez l'homme ? Il y a une île au Japon, l'île d'Okinawa, où la tradition veut qu'on ne mange jamais complètement à sa faim. On doit sortir de table en ayant encore faim. Et on a estimé que c'est sur l'île d'Okinawa, on mange en réalité 80% de sa ration normale. Et sur cette île, il y a 15% des super centenaires, donc de plus de 110 ans de l'ensemble de la planète, alors que cette île ne compte que 1,2 million d'habitants. Donc vous voyez qu'ici, il y a quelque chose d'exceptionnel. Alors la restriction calorique, elle a été testée par une étude pionnière en 1935 par McKay, comme illustré sur ce graphique. Vous voyez que par rapport à, là vous avez le taux de survie de souris, par rapport à des témoins, la restriction calorique permet une amélioration du taux de survie et donc un allongement de la longévité. Et ce protocole a été validé à différents niveaux du règne animal. C'est la seule intervention extérieure qui permet un tel effet sur la longévité. Et le fait qu'on le retrouve dans le règne du vivant montre qu'il semble que ça agisse sur des phénomènes centraux qui ont été conservés au cours de l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'il en est chez les primates ? Alors, la restriction calorique a été appliquée dans des études à long terme aux États-Unis sur deux études chez des macaques. Et elles ont montré, avec une restriction de moins 30%, des résultats qui sont controversés. Vous avez une étude ici qui montre qu'il y a une amélioration de la longévité donc chez les animaux sous restriction par rapport au contrôle. Et vous avez ici l'illustration d'animaux du même âge, témoins et restreints. Mais une autre étude a montré qu'il n'y avait pas d'effet significatif de la restriction calorique sur la longévité. Étant donné la durée de vie des macaques, on n'a pas atteint la durée de vie maximale. Dans les deux groupes, des animaux sont encore vivants. Alors nous, on a testé ce protocole sur le microcèbre, qui est un primate modèle pour le vieillissement, pour différentes raisons. Alors c'est un primate prosimien, donc un primate primitif, lémurien, qui est endémique de Madagascar et que nous avons donc en captivité. Alors le microcèbre est petit par sa taille, mais grand par sa longévité. Donc j'ai coutume de dire qu'il fait un millième du poids de l'homme, entre 60 et 80 grammes, pour moins d'un dixième de sa longévité. Donc il vit particulièrement vieux pour sa taille. C'est un animal qui est nocturne et qui montre de grandes similarités dans son vieillissement par rapport à l'homme, y compris dans son vieillissement cérébral. Alors nous avons entamé il y a plusieurs années un programme restrical dans lequel nous avons inclus 24 mâles à l'âge de 3 ans, qui est pour cet animal l'âge adulte. Donc 15 animaux contrôle et 19 animaux ont été mis sous une restriction calorique de moins 30%. Et nous avons fait un suivi des marqueurs du vieillissement que nous connaissons bien chez cette espèce. Et nous avons suivi donc le décours de l'apparition des pathologies liées à l'âge que nous avons testé à différents moments jusqu'à la mort naturelle des animaux. Alors je vais vous montrer quelques résultats. Tout d'abord, donc classiquement, l'effet de la restriction calorique sur le poids corporel. Donc vous avez dans chaque diapo en bleu les animaux contrôle et en rouge les animaux restreints. Ici, leur âge en année. Et on peut voir que au fil des ans, les microcèbres sous restriction sont plus minces que les animaux contrôle, ce qui est attendu, mais qu'ils ont un poids relativement stable, ce qui est plutôt rassurant. Donc ils ont fait une bonne gestion métabolique de leur restriction calorique. Nous avons testé différents paramètres révélateurs des effets du vieillissement. Ici, vous avez les fonctions sensorimotrices mesurées sur un rotarod, donc un rondin qui tourne de plus en plus accéléré et sur lequel l'animal doit maintenir son équilibre. Et vous avez donc en bleu l'évolution après les années de traitement pour les animaux contrôle, et on voit qu'il y a une diminution des performances sur le rotarod, alors que la restriction a permis un maintien des performances dans une gamme similaire à celle de l'âge adulte. Donc on a ici un maintien de ces performances-là chez des animaux âgés dans la gamme des performances des animaux adultes, donc un effet positif de la restriction. Alors, dans un autre domaine, donc là, les fonctions cognitives, je vous présente le test de mémoire spatiale. Donc ici, l'animal doit apprendre dans un grand cylindre avec des orifices identiques. Il doit apprendre le trajet qui le mène à une unique sortie avec des repères extérieurs donc qui lui permettent de se repérer. Et on teste, une fois qu'il a bien appris la trajectoire, on teste sa mémoire 24 heures après et on quantifie le nombre d'erreurs avant de trouver la sortie. Et donc, d'année en année, on peut voir que chez les animaux contrôle, on a une augmentation du nombre d'erreurs avant de trouver la sortie, donc une diminution de la mémoire spatiale avec l'âge. Et cette évolution est identique chez les animaux restreints. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que, certes, il n'y a pas d'effet bénéfique de la restriction calorique sur cette fonction cognitive, mais il n'y a pas d'effet délétère non plus, ce qui est quand même assez rassurant, puisque certaines études incriminent la restriction calorique sur les effets sur les fonctions cognitives. Donc là, comme je vous l'ai dit précédemment, les animaux ont bien géré leur challenge métabolique et ils ont également réussi à préserver des fonctions cognitives intègres. Enfin, un paramètre caractéristique de maladie chronique liée à l'âge, c'est les déficits de régulation de la glycémie, donc les prémices d'un potentiel diabète. Donc là, après trois années de traitement, donc chez des animaux qui deviennent vieux, on a comparé la régulation du glucose sanguin. Donc on fait ingérer du glucose à un animal et ensuite on suit la cinétique de la glycémie, qui normalement doit être régulé le plus rapidement possible et retourner à son état initial le plus rapidement possible. Et ce qu'on peut voir, c'est que par rapport au taux de glucose plasmatique avant la prise orale de glucose, on a chez les animaux contrôle une augmentation très nette et qui dure presque une heure avant un retour à la normale, alors que chez les animaux restreints, on a une régulation extrêmement efficace est tout à fait semblable à ce qu'on peut observer chez des jeunes animaux. Et donc, on a ici très nettement reculé l'apparition d'un déficit de régulation de la glycémie. Donc, on était très contents. Alors, enfin, les données ultimes, ce sont les données de survie. Alors, sur cet animal qui a une durée de vie bien plus courte que les grands singes, on a la chance d'arriver plus rapidement à une courbe quasi totale de survie. Vous avez ici, donc en bleu, la courbe de survie de notre groupe contrôle. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, eh bien, tous les animaux sont morts. Et vous avez la courbe en restriction calorique qui est très significativement reculée. Et donc, on a un effet très significatif sur la longévité. Et nous n'avons pas encore la survie maximale, puisque nous avons, contrairement aux contrôles chez lesquels aucun n'a vécu plus de 2 ans, nous avons encore des animaux restreints qui ont plus de 13 ans. Mais par contre, ce qu'on peut quantifier dès à présent, c'est l'âge à la demi-vie, qui est un paramètre très important quand on fait des mesures de survie. Et vous voyez que cet âge à la demi-vie, il est de 6,4 ans chez les animaux contrôle et de 9,6 ans chez les animaux restreints. Et donc, on a un delta de 3,2 ans. Donc, on a augmenté l'âge à la demi-vie de 50%, ce qui est tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors donc, vous connaissez tous Jeanne Calment, qui est à ce jour la supercentenaire qui a vécu le plus longtemps et dont au moins qui est reconnue comme étant le record de longévité humaine, 122 ans et 164 jours. Le record de longévité maximale enregistré chez le microcèpe dans nos conditions de captivité, c'est 13,8 ans. Et donc nous, là, à l'heure actuelle, nous avons encore des restreints dont le plus vieux a 13,7 ans. Et donc sous peu, nous espérons pouvoir dire que nous avons dépassé la longévité maximale. Mais nous pouvons dire que oui, des challenges nutritionnels peuvent augmenter la longévité. Alors on peut se dire que c'est quand même peu applicable à l'homme, n'est-ce pas, pour pas mal de raisons. Je vous ai parlé, bon d'abord il y a le fait qu'en général on aime bien manger. Et puis je vous ai parlé du potentiel effet délétère sur la cognition, mais il y en a d'autres, par exemple sur la libido, des choses qu'on n'a pas trop envie de voir. Et donc qu'en est-il des médicaments? Alors très rapidement je vais vous parler de deux cas. D'abord, une molécule qui a fait grand cri ces dernières années et qui part du principe du paradoxe français. Donc, qu'est-ce que c'est que le paradoxe français, pour ceux qui ne le connaissent pas, très bien. Eh bien, pour ce qui est des décès liés aux maladies cardiaques, la France est loin derrière de très nombreux pays, malgré une alimentation reconnue comme étant très riche. Et donc ça c'est un paradoxe, mais ce qu'on peut voir par rapport à ça, c'est que la France est un des plus grands consommateurs de vin, en l'occurrence après Vatican et Andorre. Et donc en mettant en relation ces paramètres, il s'est avéré qu'on a suspecté que la consommation de vin était très bénéfique et pouvait expliquer ce paradoxe français. Or dans le vin, il y a une molécule qui s'appelle le resvératrol, qui est un polyphénol, présent en grande quantité dans le raisin et qui se retrouve dans le vin et notamment le vin rouge et qui a été proposé comme étant une molécule qui pouvait permettre de retarder les pathologies liées à l'âge et d'augmenter la longévité. Des études ont été réalisées qui ont montré que le resvératrol augmentait la durée de vie chez la levure, les vers, les drosophiles et les poissons. Mais chez les mammifères, il n'y a pas eu de résultat concluant à ce jour. Et donc, il n'est pas possible de pouvoir confirmer cette hypothèse. Mais on est dans les questions mythe et réalité. Donc, est-ce un mythe ou une réalité? Nous ne pouvons pas le dire. Ceci étant, récemment, une molécule a été... a fait ses preuves. C'est la rapamycine. Donc c'est une molécule qui a été découverte sur l'île de Pâques, d'où son nom, et qui est produite dans le sol par des champignons, et qui a été démontrée ici chez la souris, donc chez un mammifère, comme ayant un effet très bénéfique sur la survie. Et donc, potentiellement, on a un premier médicament qui peut permettre d'avoir un effet sur la longévité. Et pour finir, donc, mythe ou réalité, juste une dernière diapo pour vous parler de cet article qui est sorti très récemment dans Nature et avec un titre un peu provocateur, la démonstration d'une limite à l'espérance de vie de l'homme. Alors cet article montre en exemple l'évolution de l'espérance de vie en France, comme quoi la France est vraiment exemplaire pour ce qui est de l'augmentation de l'espérance de vie. Là, vous voyez bien évidemment les deux grandes guerres mondiales et puis l'augmentation croissante de l'espérance de vie. Or, dans cette étude, ils ont enregistré pour différentes années le maximum reported age at death, donc dans quelle est la valeur de l'âge maximal enregistré pour la mort. Et vous pouvez voir ici, 1997, Jeanne Calment, 122 ans. Et donc cet article dit qu'il y a eu une augmentation croissante au fil des décennies de l'âge maximal à la mort, mais que depuis justement cette fin du XXe siècle, il y a une diminution des âges enregistrés d'âge maximum à la mort. Pour appuyer cette argumentation, ils ont enregistré non seulement l'âge maximal, ici en rouge, mais le deuxième âge maximal, le troisième, quatrième, cinquième, pour prouver que ce n'est pas juste un effet artefact de Jeanne Calment et de un ou deux autres ici. Et on retrouve cette même tendance. Donc il semble qu'il y ait un frein à cette augmentation de l'âge maximum, voire même une diminution. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas le poids de l'évolution, d'un déterminisme génétique qui aurait l'air de dire qu'il y aurait une limite à cette espérance de vie, ce qu'il ne faut pas simplement axer sur le retard d'apparition des pathologies liées à l'âge. Est-ce qu'on peut encore considérer qu'il est possible de pousser l'espérance de vie maximale de l'homme? Peut-être même à quoi bon? Voilà, je vous laisse avec cette dernière question et je vous remercie pour votre attention.
Alors, on va se donner 10 minutes
pour les questions. Et après, vous aurez compris que vous pourrez manger peu et boire à votre libre arbitre. Voilà. Donc, première question. Et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. C'était madame, puis monsieur, je crois. Oui. Allez-y.
Oui, bonjour, donc Clotilde Policar, je suis chimiste et j'avais une question sur votre expérience. Donc, c'est fait sur des mâles, parce qu'on a vu qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles. Et qu'est-ce que ça aurait donné avec les femelles? Est-ce que vous avez une idée?
Effectivement, on n'a pas travaillé sur les femelles parce qu'on a une grosse animalerie qui gère en autonomie son élevage et les femelles sont maintenues pour la reproduction. Surtout pour des études sur du long terme comme ça. Et en plus, elles sont des animaux photopériodiques et extrêmement cycliques, et on ne voulait pas se rajouter de ces paramètres-là. Quand on fait des études ponctuelles sur les femelles, on voit des différences mâles-femelles, par exemple dans l'altération des fonctions cognitives. Mais sur la restriction calorique, je n'ai pas l'information.
Bonjour, merci. Donc Yago, toujours biologiste et nouveau étudiant en master d'informatique. Je me demandais, pour les enquêtes que vous faites auprès des couples donneurs d'embryons, qu'est-ce que vous aviez comme moyen de désamorcer cette relation tristement hiérarchique du coup, qui se met entre vous et les dessinateurs pour éviter qu'ils aient cette sensation d'être en situation d'évaluation? Est-ce qu'il y a des outils? Comment on gère ça?
Merci pour la question. En fait, ça dépend. Ça dépend des consultations. Enfin, il y a quelque chose qui... Je suis présentée comme la sociologue qui travaille dans le service. Et donc déjà, il y a un effet, je ne suis pas médecin. Donc, de toutes les façons, ils ne sont pas du tout dans la même position vis-à-vis de moi que vis-à-vis du médecin. Et par ailleurs, je ne suis pas non plus la psychologue parce que l'entretien avec un psychologue est rendu obligatoire. Et le psychologue peut dire si oui ou non un couple peut accéder ou non, peut refuser en fait l'accès au don d'embryon. Donc je dirais qu'entre ces deux, moi j'apparais un petit peu comme la récréation dans le temps du terrain. Et après, ce que je garde en tête, et spécifiquement sur ce dernier terrain où effectivement les gens n'étaient pas du tout dans les mêmes positions sociales que la mienne, une difficulté, alors après c'est, je sais pas, c'est un savoir-faire, c'est une habitude. Je ne prétends jamais ne pas être ce que je ne suis, enfin être ce que je ne suis pas. Et voilà, de l'empathie, de l'écoute, de voilà. Mais le fait d'être ni médecin ni psychologue, en l'occurrence, c'est quelque chose qui m'aide là, ici. Voilà.
Bonjour, Françoise Gosti. Je voudrais savoir si quand vous avez interviewé les donneurs d'embryons, vous avez cherché à savoir s'ils étaient eux-mêmes donneurs d'organes.
Bien sûr.
Et oui. L'autre chose, c'est, est-ce que vous pouvez commenter la vision des couples donneurs comme donneurs de vie et receveurs comme receveurs d'un amas de cellules?
Alors, oui, c'est évidemment quelque chose que je n'ai pas le temps d'aborder, mais et ces gens qui donnent sont des donneurs. Donc ils ont des cartes, d'ailleurs dans les entretiens plusieurs m'ont montré leur carte de donneur d'organes, voilà, ils sont dans une logique de don, en établissant d'ailleurs une hiérarchie du don. Il y a le sang, l'organe et l'embryon, c'est-à-dire que très clairement cette hiérarchie elle est tout le temps reproduite. Vous voulez dire comment je peux analyser la hiérarchie, enfin la différence entre les donneurs de vie et les receveurs d'amas de cellules? Eh bien, les donneurs de vie, je pense que le fait d'être parent modifie complètement la chose, c'est-à-dire que vous avez votre enfant et après donc ses embryons, donc vous imaginez ce que va pouvoir être cet embryon. Et à l'inverse, ceux qui vont recevoir sont des gens qui sont largement échaudés par des parcours d'AMP qui peuvent durer depuis une dizaine d'années. Hein, ça peut être, parfois c'est très très long. Et donc, je dirais, c'est une forme de protection aussi de ne peut pas se les imaginer comme des enfants potentiels. En fait, on préfère. Et à mesure qu'ils avancent dans le parcours, on progresse. Mais ça, j'avais déjà vu sur mon terrain précédent, en fait, comment on se protège en quelque sorte de cette représentation.
Oui, bonjour Nathalie Chazal. Je voulais vous poser la question justement sur votre questionnaire. Vous avez beaucoup insisté sur la notion de famille, donc père et mère. Est-ce que vous avez inclus dans votre questionnaire la possibilité de don à un couple homosexuel ?
Oui. oui, c'est une des questions que je pose, surtout que c'est une question qui se pose, d'autant plus que le CCNE s'est posé aussi la question, que j'avais été saisie par le CCNE sur cette question précise. Et en fait, donc, du coup, vous voudriez savoir ce qu'en pensent les gens. Eh bien, d'une façon générale, les gens sont tout à fait... Les donneurs, en tous les cas, sont tout à fait ouverts à ça. Disent qu'à partir du moment où ils donnent, et donc ils sont dans cette idée que l'embryon est un enfant potentiel, donc autant qu'il soit heureux quelque part, enfin voilà, cette projection, si tant est qu'un embryon puisse être heureux, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, avec cette ouverture. Et du côté des receveurs, la question c'est pourquoi pas, mais avec une hiérarchie, c'est-à-dire nous d'abord, nous les hétérosexuels qui avons souffert d'une infertilité médicale avant des femmes homosexuelles qui souffrent de ce qu'on appelle communément maintenant une infertilité sociale. Voilà, mais donc avec cette hiérarchie. Et du côté des donneurs, je n'ai aucun couple de donneurs qui m'ait dit on y est opposé.
Merci.
Oui, Jean-Paul Lomont, roboticien. Une question sur le vieillissement. Vous avez intitulé votre conférence « Reculer le vieillissement, mythe ou réalité ». Après vous avoir écouté, on a bien compris que c'était un mythe. Quelle est votre position par rapport aux travaux qui prétendent que nous allons parvenir, grâce à l'artificiel, grâce à reculer l'âge de la mort et, voilà.
J'ai quand même dit que le titre de cet article que j'ai présenté en dernier était provocateur. Et puis ça dépend de ce qu'on vise en fait. Est-ce qu'on vise à faire perdurer certaines fonctions? Est-ce que c'est l'organisme dans son intégralité? Est-ce que c'est une analyse statistique comme l'est l'espérance de vie? Il y a différents niveaux. Et donc je ne dirais pas que mon discours voulait vous orienter clairement vers le mythe. Je pense qu'il y a aussi un potentiel, mais la réalité actuelle ne permet pas de conclure cette possibilité. Mais la porte est ouverte.
Oui, bonjour. Moi, j'aimerais, Thierry Montmerle, j'aimerais poser une question à Madame Bossy, dont l'exposé est quand même extrêmement émouvant et remue énormément de choses. Vous avez intitulé votre exposé « Les frontières de la mort ». Moi, je retiens de votre exposé plutôt « Les frontières de la vie ». C'est-à-dire que on maintient, vous posez des cas où on maintient en vie grâce à des machines. C'est-à-dire que là, on arrive à la limite des processus naturels. On a beaucoup parlé de sélection naturelle, etc. Et il est clair que si on ne laisse agir que la sélection naturelle, tous ces cas que vous décrivez n'existeraient pas. On peut s'interroger sur combien de temps après un guillotiné peut continuer à vivre. C'est le canard qui court toujours, etc. Mais ça me semble poser des problèmes qui sont de nature différente à partir du moment où quelque chose qui n'est un processus qui n'est pas naturel, au sens où c'est une machine, arrive dans le processus. Donc il me semble que l'interrogation elle est quand même différente de celle qu'on a eue jusqu'à présent, parce que ça pose des problèmes. On a eu des affaires extrêmement médiatiques sur des gens qui ont accidenté, qu'on continue à prolonger indéfiniment, arrive des phénomènes tout à fait différents, c'est-à-dire des phénomènes sociaux, des phénomènes collectifs, des phénomènes éthiques qui font appel à la conscience, en fait, et pas seulement au vivant. Donc là, on arrive dans un domaine quand même extrêmement différent. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a, c'est encore un problème, qui est à l'image de la définition de qu'est-ce que la vie. C'est que personne n'est arrivé à s'entendre sur la définition de qu'est-ce que la vie. Et dans des situations comme ça, on est un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à arriver à donner une réponse. La réponse sera fonction de la culture de l'époque, de l'environnement, des connaissances et de la morale, de rapport avec des choses complètement différentes, avec la religion, les choses comme ça. Donc je me demande un petit peu, enfin j'aimerais avoir votre opinion, est-ce qu'il y a malheureusement des diapositives qui ont disparu, par exemple, quelle est la réponse donnée par d'autres cultures? Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Et jusqu'où est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une limite, c'est-à-dire qu'à un moment donné où on arrivera, disons, à une convergence où les cas seront tellement extrêmes que finalement, bon, ça restera des cas extrêmes et des cas bien spécifiques, mais on n'a pas forcément vocation à en tirer une généralité, une loi ou quelque chose comme ça. Il faut laisser un peu de souplesse peut-être, mais on voit bien qu'il y a des cas extrêmes qui sont tellement extrêmes que ça sort du contexte de la réflexion générale, en fait.
Oups, décidément aujourd'hui, je ne suis pas très douée. La technique me résiste là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, là, on est complètement, comme d'ailleurs avec, souvent avec la médecine, on sort d'une optique naturaliste, évolutionniste. Et c'est très difficile, dans un discours condensé, d'essayer de présenter un peu les différentes facettes qui sont évidemment biologiques, médicales, mais aussi juridiques, éthiques, philosophiques. J'ai essayé de montrer quand même, d'un côté, l'extraordinaire accélération de ce procès, de changement de critères pour établir les frontières entre la vie et la mort, qui s'est produit dans la deuxième moitié du siècle dernier, après des évolutions quand même assez lentes. Et j'ai essayé, je pense, de montrer qu'il faut quand même être vigilant et de ne pas laisser trop, ce qui est quand même une tendance de nos sociétés qui sont technocratiques et bureaucratiques, de laisser influencer la pratique médicale par des critères uniquement technocratiques et productivistes. Bon, par exemple, je suis assez troublée par exemple, par ce qui se passe dernièrement. On a eu notamment sur les problèmes très débattus des prélèvements d'organes chez des donneurs à cœur arrêté dans des protocoles de type contrôlé qui sont, je le rappelle, actuellement utilisés déjà depuis une vingtaine d'années dans beaucoup de pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, mais qui sont interdits, par exemple en Allemagne et dans pas mal d'autres pays qui considèrent que il y a des problèmes éthiques trop importants. En France, on a pris un parti pris qui, à mon avis, repose sur l'assurance qui est justifiée d'avoir un système très encadré et très efficace, mais très centralisé, mais qui n'est quand même pas à l'abri, à mon avis, d'une dérive technocratique. Là, il y a eu dernièrement, en 2007, on a arrêté le moratoire. En janvier dernier, on a permis, on a donné le feu vert pour ce type de prélèvement en France contre des réserves quand même exprimées d'une manière très nette par ceux qui doivent s'en occuper pratiquement, c'est-à-dire les médecins réanimateurs. Bon. Il y a eu une loi qui est passée, là aussi vraiment en force, qui durcit les critères du consentement présumé, qui existe en France et en beaucoup d'autres pays depuis longtemps. Mais moi, personnellement, je ne voyais vraiment pas... déjà, je suis personnellement assez critique vis-à-vis du consentement présumé, qui est utilisé dans beaucoup de pays, mais qui n'est pas conforme avec la pratique et même avec ce que les associations pour les greffes souhaitent. Là, il y a eu d'abord un amendement qui est passé au Parlement. Il y a eu une levée de bouclier
le comité d'éthique du Conseil de l'Ordre de médecins, toutes les sociétés savantes, les associations même pour les greffes. Et avec le Sénat l'avait bloqué au début, mais après plusieurs allers-retours, la loi est passée. Et donc maintenant, selon la loi, évidemment, ça ne pourra pas être appliqué comme ça dans la pratique, parce que les médecins ne pourront pas l'appliquer. Mais la loi ne demande maintenant pas aux médecins aller chercher auprès de la famille l'éventuel accord ou non pour le don d'organes des défunts. Et la loi prévoit que la famille soit informée. Et les modalités d'exprimer son refus sont précisées dans un décret qui est passé aussi un peu comme ça, sans débat démocratique. Donc théoriquement, maintenant, le moyen principal pour exprimer son refus, c'est un registre centralisé auquel on doit s'inscrire, donc faire une démarche. Bon, moi, personnellement, je ne me suis pas inscrite au registre des refus, évidemment, parce que j'ai, comme nous tous, je pense, des proches qui vivent grâce à des greffes. Je ne suis pas contraire aux greffes. Je me dis que peut-être un jour, j'aurai besoin d'un organe. Pour un critère de justice, je ne vais pas m'y inscrire. Mais j'avoue que la façon dont les choses ont été conduites par certains parlementaires et par l'Agence de la biomédecine m'a incité à un moment à me demander si je n'allais pas m'inscrire au registre des refus. Et je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir ce même réflexe d'irritation, parce qu'il est évident que la conjonction de critères qui sont discutables et discutés d'une mort après un arrêt cardiaque très court qui ne permet pas à une mort cérébrale véritable de s'installer, de un critère durci d'un consentement présumé et de la modification de la loi Leonetti, la loi Claeys-Leonetti passée en même moment et qui permet une sédation profonde et un arrêt de l'hydratation et de l'alimentation considérés maintenant officiellement comme des thérapeutiques actives. C'est une conjonction qui, à mon avis, ne concerne pas que les spécialistes. Et il y a eu beaucoup de débats auprès des médecins. Et moi, j'ai un frère réanimateur et c'est pour ça que je me suis un peu intéressée. Et je suis neurologue moi-même. Donc, je pense que ce que j'ai pu dire, ça ne concerne pas du tout. Je crois que les médecins sont très conscients des aspects délicats de tout ça et de devoir quand même tenir compte du bien que sont les greffes et encadrer ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un défaut de débat démocratique sur ces questions qui me paraît critiquable.